Bonjour, aujourd'hui, la Grande Loge féminine de France. Au micro, Béatrice Klein. Je reçois Françoise Carrère, Corinne Dreschère-Lenoir et Marie-Christine Lecomte. Actualité oblige, aujourd'hui, nous consacrons notre émission, en ce mois de mars, aux droits des femmes. Françoise, Corinne et Marie-Christine, nous allons proposer de vous présenter quelques instants pour que nos auditeurs comprennent mieux le sens de vos propos. Françoise ?
Alors, Françoise Carrère, je suis franc-maçonne à la Grande Loge féminine de France depuis 37 ans. Je suis aussi présidente de la Commission nationale des droits des femmes. Et dans la vie civile, je suis professeure de lettres retraitée, mais engagée fortement dans le monde associatif et notamment présidente de la Maison des femmes de Lille.
Nous reparlerons de tout ça tout à l'heure. Corinne ?
Corinne Dreschère-Lenoir, je suis dans la vie civile gynécologue obstétricienne et moi également franc-maçonne depuis 37 ans. Alors pourquoi je le dis et pourquoi j'insiste dessus ? Parce que j'ai vraiment le sentiment, parce que la franc-maçonnerie c'est une quête de soi, et que depuis 37 ans, en fait, ma vie professionnelle et ma vie personnelle se sont fortement intriquées et se sont vraiment nourries l'une de l'autre.
Nous évoquerons tout ça ensemble tout à l'heure aussi. Et Marie-Christine ?
Alors, Marie-Christine Lecomte, moi, je suis franc-maçonne, je suis la petite du groupe. Je suis franc-maçonne depuis 25 ans à la Grande Loge féminine de France. Et je suis à la Commission des droits des femmes depuis son début. Et je suis également adhérente à l'AIR, qui est l'Association pour l'instauration d'un revenu d'existence, parce que je me suis plus particulièrement intéressée au droit social des femmes, à leur position sociale et également à leur revenu d'existence.
Un sujet qui est peut-être un peu moins traité et que nous approfondirons tout à l'heure. Chers auditeurs, vous n'avez sans doute pas d'étonnement de trouver la Grande Loge féminine de France mobilisée sur les droits des femmes, c'est en quelque sorte dans notre ADN. Nous allons notamment parler du travail de la commission que nous avons créée, qui s'appelle la Commission des droits des femmes et qui fête cette année ses 10 ans. Françoise, vous en êtes la présidente. Pouvez-vous nous dire un peu quel est le chemin parcouru et les chantiers à venir ?
Voilà. Alors, à l'échelon national, la Commission donc des droits des femmes a, dès sa naissance, ouvert plusieurs chantiers. Et je vais en citer 4 essentiels. Le premier, c'était l'Europe. Égalité des chances, parité. Le deuxième chantier était violence subie par les femmes. Le troisième chantier, on en reparlera, paupérisation des femmes. Et le quatrième chantier, éducation à l'égalité, femmes-hommes. Alors, que faisons-nous à la Commission des droits des femmes ? Eh bien, nous travaillons, bien sûr, nous constituons des dossiers. Je vais prendre un exemple concret. Nous établissons aussi des bases de données. Nous avons beaucoup travaillé, notamment, sur l'intégrité des femmes. Alors, nous avons aussi un rôle d'alerte, puisque dans nos contributions, nous mettons en alerte très facilement lorsque nous sentons qu'il y a un problème, notamment, par exemple, lorsqu'il a été question du voile intégral, nous avons beaucoup travaillé sur le port de la burqa, ou bien sur la fin de vie. Puis nous avons aussi, bien sûr, un rôle de veille, mais aussi un rôle de veille international, puisque nous travaillons régulièrement sur la CIDO. Donc, nos travaux ne sont pas simplement des travaux à l'interne, nous ouvrons bien sûr au grand public et nous organisons régulièrement des colloques nationaux. Ça va faire un peu catalogue, mais je pense que c'est un parcours obligé. Nous avons travaillé sur femmes, enjeux et devenir, un autre sujet pour une politique d'autonomie des femmes, ou bien encore un colloque sur l'Europe, creusé de l'idée de démocratie et des droits fondamentaux de l'individu. Un autre colloque sur de la loi Veil aux droits des femmes en Europe aujourd'hui. Et puis notre avant-dernier colloque, droits des femmes et contenu théologique, une confrontation inévitable. Alors ça, c'est à l'échelon national, mais il ne faut pas oublier que les régions aussi s'engagent. Et toutes les régions travaillent, et elles s'engagent plus précisément dans des réflexions, dans l'établissement de dossiers, dans la réalisation de conférences ou de colloques qui reprennent, c'est vrai, un petit peu ce que nous avons déjà dit, mais il est intéressant de le redire. Et notamment, nous avons eu en région des colloques sur les violences verbales, physiques ou psychologiques, sur la prostitution, sur la PMA-GPA, sur la femme dans les jeux vidéo et aussi, bien sûr, sur le fait que nous soyons une obédience monogenre.
On comprend bien l'ampleur des travaux qui sont et leur diversité. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi sont utilisés en fait les fruits de tous ces travaux? Comment sont-ils diffusés, exploités, utilisés pour faire avancer les choses?
Alors, ils sont diffusés déjà à l'interne. Ça, c'est important que tous les membres de la Grande Loge Féminine de France soient au courant de nos travaux.
Peut-être devrait-on rappeler d'ailleurs qu'il s'agit d'une association de 14 000 femmes.
Oui, c'est intéressant de le dire. Donc, 14 000 femmes qui sont au courant de nos travaux. Mais nous faisons aussi, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, des colloques grand public, mais nous sommes aussi invités aussi bien par les instances telles que le Sénat ou l'Assemblée nationale de façon très, très courante, et notamment au Sénat il n'y a pas très longtemps à propos de l'égalité.
Alors on a vu la diversité des travaux, je dirais, et leur richesse. Nous allons maintenant faire un zoom peut-être sur un des sujets un peu plus particuliers. Et parmi les sujets de préoccupation, il me semble qu'il ne faut jamais lâcher la vigilance qui s'impose, notamment pour le droit des femmes à disposer de leur corps et le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Corinne, nous avions bien compris que c'est à la fois votre métier et votre centre d'intérêt particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes aujourd'hui et ce qu'il reste à mettre en œuvre pour assurer cette liberté aux femmes?
Oui, tout à fait. J'aurais presque envie de dire, c'est quand même un peu désolant que 40 ans après, on en soit encore à s'inquiéter de la chose et à se poser la question. Les droits des femmes et les droits des femmes à disposer d'elles-mêmes, je dis bien, parce que disposer de leur corps, c'est terriblement réducteur et ça les met encore toujours dans leur fonction reproductrice. Et une femme n'est pas qu'un corps reproducteur, une femme c'est une femme, un être humain entier, avec ses choix, ses désirs et sa liberté d'être. Et vraiment, c'est là-dessus que perpétuellement, j'allais dire, la société achoppe, parce que, comme si nous en étions encore, dans la différence des sexes, à des rôles prédestinés et au fait que les femmes sont perpétuellement cantonnées à la famille et à leur rôle de mère, et que finalement les hommes, je vais faire un peu militante, je ne vais pas choquer en disant ça, mais les hommes, la société, les instances religieuses, les instances gouvernementales s'autorisent à penser pour les femmes.
Il y a pourtant quelques hommes féministes.
Oh, heureusement.
Non, je disais heureusement. Ça pour moduler un peu votre propos.
C'est pour ça que je disais que je pouvais peut-être choquer, mais c'est encore bon lorsque l'on voit. Il y a eu justement la dernière photo de Trump avec toutes ces sept hommes qui décidaient contre l'IVG, ce qui d'ailleurs avait...
Je crois qu'on va pas commencer à aborder la vision que Trump a des femmes, parce que je crois qu'on sera encore là demain matin.
Mais c'était pour montrer la caricature. La caricature montre bien que on est encore malheureusement dans l'actualité. Voilà.
Et sur la question de l'IVG en particulier, on a quand même eu quelques craintes dans certains pays,
absolument,
notamment certains pays européens,
absolument,
de voir les droits reculer.
Oui, tout à fait. Tout à fait. 73 en Espagne, très récemment en Pologne. Donc c'est...
Est-ce qu'un des mots-clés, finalement, dans le domaine dont vous nous parlez, n'est pas une sorte de vigilance permanente de réaliser que rien n'est jamais acquis?
Absolument. Absolument. Mais je vois bien, on a parlé du colloque des 40 ans de la loi Veil. Nous avions à l'époque invité Edith Estrella, là, parce que c'était en plein dans l'actualité, et qui montrait qu'en Europe, elle avait vraiment son rapport qui était pour les droits sexuels et génésiques, hein, c'est-à-dire la liberté pour les femmes de pouvoir être informées, vivre leur sexualité comme elles l'entendaient, de voir le choix de la maternité ou de la non-maternité, l'éducation sexuelle pour tous. Il y avait eu une levée de boucliers et un lobbying intensif et violent, hein, au niveau des députés européens, par effectivement les instances religieuses et tous les gens qui sont opposés à l'IVG. Et c'est fou de penser qu'il y a une telle puissance contre la liberté des femmes.
Et on a toujours tendance à oublier, parce que je pense que peut-être dans nos jeunes auditrices aujourd'hui, il y en a qui ne réalisent pas le peu de temps que ça fait que nous avons simplement le droit de voter. Nous reparlerons un peu des élections tout à l'heure, mais c'est aussi un sujet préoccupant. Alors, nous reviendrons à vos sujets tout à l'heure. Il y a un sujet qui est peut-être un peu moins mis en avant spontanément quand on parle des droits des femmes, mais qui reste très préoccupant, c'est l'autonomie des femmes et leur précarisation. Marie-Christine, que faut-il bien comprendre sur ce sujet ?
Alors, il y a deux axes. Il y a déjà les droits sociaux, tout simple, des femmes en général. Et comme le disait Corinne, j'écoutais soigneusement, en fait, les femmes sont rarement considérées comme un individu. Elles sont considérées, je vais faire plaisir à tout le monde ici, comme l'épouse de, la fille de, la mère de... sans jeu de mots, bien entendu, mais il faut un peu vouloir être un individu. Nous sommes, nous, la plus grande obédience féminine.
Dans le monde.
Dans le monde. Et c'est notre rôle, au sein de la Commission des droits des femmes, de s'emparer de vraiment les droits inhérents aux femmes. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est que l'économie, sans le vouloir, je pense, de la part des femmes, a été totalement abandonnée aux mains des hommes. Or, le droit plus l'économie, c'est toute la vie des femmes qui est en jeu. Je vous donnerai un exemple tout à fait particulier, c'est 98% des familles monoparentales sont des femmes. Et c'est gérer une famille pour une seule personne qui a moins de droits que le reste de l'humanité, c'est quand même un peu difficile, vous avouerez. Donc voilà, c'est sous cet axe-là que nous souhaitons travailler. Les femmes bénéficient en réalité de droits dérivés, ouverts par ce statut d'épouse, de mère, etc. C'est une logique de dépendance. Et notre volonté, à nous, c'est de trouver l'axe qui permette aux femmes d'être réellement, et en droit, et en économie, indépendantes.
Et quelles seraient les pistes, d'après vous, l'accès à cette indépendance ?
D'abord, il faut que nous réfléchissions. Comment se fait-il que les femmes ne s'emparent pas elles-mêmes de leurs droits et de leur avenir, et aussi des finances ? Pourquoi laisse-t-on ça aux mains en disant « Ah, on n'y comprend rien ». Ben non, on y comprend très bien si on s'y attache. Alors mon point de vue, moi, mais il est très personnel bien sûr, c'est qu'un revenu d'existence aiderait les femmes à acquérir au moins un socle pour avoir des droits qu'elles auraient définitivement financiers. Ça, c'est très important. Voilà, je vais vous donner un exemple, mais tout bête, mais est-ce que l'on sait, est-ce que l'on connaît le montant du RSA ? Quelqu'un qui n'a rien, il a droit à, maintenant, avec notre État, à un RSA. Alors, pour une personne sans enfant, le RSA est de 535,17 par mois. Mais si un couple n'a rien. Deux personnes, un homme, une femme, ou enfin deux personnes, peu importe, en couple, s'ils n'auront rien ni l'un ni l'autre, alors le RSA, le montant du RSA est de 802,76 €. Bizarre, non ? Parce que 535 multiplié par 2. Eh bien, c'est simplement parce que la loi considère le couple et comme une entité. Et la France est basée là-dessus. Beaucoup de lois sont basées sur le fait que on considère le couple ou la famille comme une entité. Donc, qui croyez-vous, quand le couple se sépare de celui qui a moins de 535,17 €, qui croyez-vous que ce soit ? La femme. C'est un exemple tout bête, mais il est très important de considérer que nous sommes toujours la pièce rattachée.
Merci Marie-Christine. Alors même si la franc-maçonnerie ne s'immisce jamais dans le débat ni politique ni religieux, nous ne pouvons ignorer la période dans laquelle nous nous trouvons à quelques semaines d'une élection majeure. Vous avez souhaité interroger les candidats à l'élection présidentielle, dont la liste définitive sera connue sous 48 heures. Quels sont les points sur lesquels vous souhaitez les interroger et qu'attendez-vous de cette démarche, Françoise ?
Alors, tout d'abord, je vais rappeler que la Commission nationale des droits des femmes n'est pas à son premier essai, puisqu'elle a déjà fait cette démarche en 2012 lors des présidentielles. Elle a obtenu des réponses. Et beaucoup de réponses de la part de nos candidats à l'époque. Alors que comptons-nous en faire ? Nous en reparlerons après. Je vais d'abord dire ce que l'on demande. Alors ça se présente actuellement en ce qui concerne la Commission des droits des femmes sous la forme d'un ce qu'on appelle une plateforme, donc avec des engagements. Si vous étiez élu, vous engagez-vous à. Je ne vais pas tout détailler. Je vais vous donner les trois grands thèmes. Nous demandons donc à nos présidentiables ce qu'ils comptent faire en matière d'autonomie politique des femmes et notamment en ce qui concerne la parité, en autonomie économique et financière des femmes. Et là, je crois que Marie-Christine a été très claire dans sa démarche. Et puis, elle n'a peut-être pas parlé du temps partiel, mais nous demandons bien sûr de régler ce problème de temps partiel pour les femmes. Et puis un troisième grand point sur l'intégrité et la dignité des femmes, avec notamment le vote d'une loi antisexiste, et puis surtout, le retour, s'il vous plaît, messieurs les présidentiables, à un ministère des droits des femmes.
Merci beaucoup, Françoise. Corinne, un tout petit mot de la fin.
J'aurais envie de dire que les femmes ont droit à la liberté, elles ont droit d'avoir le choix de leur propre vie, la maîtrise de leur vie, et je souhaite que l'éducation, dès le début de la vie, permette aux filles et aux femmes de savoir qu'elles ne sont pas des êtres inférieurs.
Et d'être dans l'autonomie financière, Marie-Christine.
Absolument.
Merci beaucoup, mesdames. À rendez-vous dans un mois. Merci de nous avoir écoutés. Nous avons essayé de vous faire découvrir quelle était la vision de la Grande Loge féminine de France sur les droits des femmes. Nous nous retrouverons dans 3 mois pour vous parler des femmes dans l'histoire de la franc-maçonnerie. À bientôt.